rapport à Londres, l'once de métal fin cote $425.50. Le CAC 40, lui, recule maintenant de 0,70% à 3836 points. La Bourse de Paris, Vincent Bezeau pour France Inter.
Il y a des courses à Deauville. Arrivée de la première, il fallait miser sur le 5, le 15 et le 8. Dans la deuxième, un non partant, le 14. Combinaison gagnante aussi du Quintet Plus, le 3, le 7, le 6, le 2 et le 9. Vous écoutez France Inter, il est 14h03. Tout de suite, Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
Merci Laetitia et bonjour à tous. Aujourd'hui, à l'occasion donc de la sortie en France du film La Chute de Oliver Hirschbiegel, Les derniers jours de Hitler. Nous pouvons sombrer, mais nous entraînerons le monde entier avec nous. Adolf Hitler, 1945. D'histoire. La polémique provoquée par le film La Chute, qui sort aujourd'hui en France, montre bien que 60 ans après sa mort, Hitler continue de hanter la mémoire des Allemands et de toutes les victimes de cet homme, dont les derniers jours auront été à la mesure des horreurs qu'il avait provoquées. Le 16 janvier 1945, après une dernière offensive allemande dans les Ardennes, Hitler s'enterrait dans un bunker creusé à 16 mètres de profondeur en dessous de la chancellerie du Reich à Berlin. C'est de ce sarcophage de béton que pendant 105 jours, il allait continuer à gouverner ce qui restait du Troisième Reich et à donner des ordres à des armées qui n'existaient plus, tandis qu'au-dessus de lui, les Berlinois subissaient les bombardements alliés sur la capitale d'un empire qui devait durer 1000 ans et qui, en janvier 1945, n'avait plus, comme son chef, que quelques jours à vivre.
Berlin, la ville la plus bombardée du monde. Berlin, la ville la plus punie du monde, parce que d'elle est sortie la plus grande misère du monde. Berlin, qui a voulu le triomphe de la force, meurt aujourd'hui du triomphe de la force. Elle a voulu la mort des femmes et le cri des enfants. Elle les connaît aujourd'hui. Elle a voulu régner sur des villes mortes et elle agonise aujourd'hui à son tour avec ses plaies ouvertes et ses tripes à l'air. Laissez passer la justice de Dieu.
C'était une archive pâtée de 1945, le bombardement de Berlin où Hitler a passé les trois derniers mois de sa vie, 105 jours, dans un bunker dont un réalisateur allemand vient de faire un film, La Chute, qui sort aujourd'hui en France et qui suscite beaucoup de polémiques. Et j'ai pensé que pour se faire une idée sur ce film, il fallait d'abord le confronter à la réalité, c'est-à-dire à l'histoire des derniers jours de Hitler. Et c'est pourquoi j'ai demandé à Philippe Masson, qui est un spécialiste de l'armée allemande et qui va bientôt publier chez Perrin un livre sur Hitler, chef de guerre, de venir nous parler justement de ces derniers jours du Troisième Reich. Philippe Masson, bonjour.
Bonjour.
Alors Hitler descend dans ce bunker qui a été construit fin 44 en dessous de la chancellerie du Reich. Il en sortira pratiquement plus, sauf à deux reprises, jusqu'à sa mort, le 30 avril 45. Il faut peut-être rappeler d'abord le contexte dans lequel justement Hitler arrive à Berlin. À ce moment-là, les Allemands, pour la première fois de leur histoire depuis Napoléon, sont attaqués et se battent sur leur sol, Philippe Masson.
Oui, alors à l'ouest, l'offensive de l'Ardenne a échoué. Elle n'a pas pu déboucher sur une tentative de paix séparée avec les puissances occidentales. Disons que l'offensive nord-lande dans le nord de l'Alsace a bien marché au départ, mais finalement elle s'est arrêtée. Mais surtout, l'élément majeur, c'est que le 12 janvier, l'armée soviétique passe à l'offensive de côté de l'Oder et fonce en direction de Berlin. Alors là, il y a une rupture du front allemand et les Russes arrivent à 80 kilomètres de Berlin.
Alors après cet échec de l'offensive des Ardennes, au fond, Hitler, c'est ce qu'affirme un historien dont s'est inspiré justement le réalisateur du film La Chute, qui est Joachim Fest. Fest dit, Hitler savait déjà que au fond, il ne pouvait plus gagner la guerre. Pourquoi a-t-il continué jusqu'au bout à se battre? Que pouvait-il espérer de la poursuite de ses combats au lieu, au fond, de demander la paix immédiatement?
Eh bien, vous dites, il demandait la paix. Il est dans une impasse diplomatique totale. La paix, il ne peut pas l'obtenir. Il a essayé à plusieurs reprises, depuis 1939-40, d'obtenir la paix, notamment de l'Angleterre. Eh bien, il y a ce fameux, cette volonté de reddition sans condition. Donc, il est dans une impasse diplomatique totale. Et d'autre part, militairement, il n'a plus les moyens de tenir tête à une formidable coalition. Ce sont les trois plus grandes puissances mondiales, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique.
Mais justement, pourquoi aura-t-il continué jusqu'au bout et même au-delà, puisque c'est après sa mort, c'est 7 jours après sa mort qu'il y aura une capitulation.
Probablement parce que d'abord le peuple allemand ne l'aurait pas accepté. Tant que les Allemands n'étaient pas confrontés à une invasion, non. Capituler peut-être face aux anglo-saxons, mais face aux Russes, n'en était pas question. D'autant plus que l'invasion soviétique s'accompagne d'une série d'atrocités sans nom. Des 2 millions à 3 millions d'Allemands, d'enfants, de vieillards, de femmes vont être massacrés dans des conditions abominables.
Oui, qui sont souvent expliqués par quelque chose de vrai, de réel, c'est que l'occupation de l'URSS par l'armée allemande a été une abomination aussi, Philippe Masson.
Il n'y a pas de commune mesure. Là, c'est une super usure, si vous voulez. Les soviétiques, d'ailleurs, il y a toujours une croyance dans l'armée rouge, dans l'armée russe, d'ailleurs, c'est que le soviétique se bat très bien quand il défend son sol. Maintenant, quand il passe à l'attaque à l'étranger, dans un territoire qui n'est pas le sien, il faut lui donner des avantages, le viol, le pillage, etc.
Mais vous avez dit à l'instant, Philippe Masson, autre chose, là, un petit mot que vous avez évoqué, il faut peut-être développer. Ce que Hitler pense aussi, c'est que il espère une paix séparée avec les Américains. S'il tient aussi longtemps et jusqu'au bout à Berlin, c'est qu'il se dit que les Américains et les Russes vont se séparer, vont s'opposer, même avant même la défaite allemande.
Il a caressé cet espoir très longtemps, oui. Et cette alliance lui semblait contre nature. Les deux plus grandes puissances capitalistes du monde, et à l'époque, la seule grande puissance socialiste s'affrontait, c'était quand même quelque chose d'assez étonnant. Donc, il était convaincu. Maintenant, il a prévu la guerre froide dans les derniers propos qu'il a tenus. Je ne sais pas si on le dit dans le film, mais enfin, il a fait preuve d'un sentiment de l'avenir assez étonnant, disant qu'il y aurait deux grandes puissances maintenant qui s'affronteraient, il y aurait une sorte de guerre économique, idéologique, peut-être militaire, et que les adversaires du Reich auraient besoin d'une armée puissante allemande.
Alors il espère donc une paix séparée avec les Américains, mais il continue de mobiliser les Allemands, tous les Allemands, qui entendent Hitler à la radio pour la dernière fois le 30 janvier 1945, jour du 12e anniversaire de son arrivée au pouvoir.
J'attends de chaque Allemand qu'il accomplisse ses devoirs jusqu'au bout, qu'il accepte tous les sacrifices. J'attends de chaque personne saine qu'elle s'engage avec corps et vie dans la bataille. J'attends de chaque malade et infirme qu'il travaille en déployant toutes ses forces. J'attends des habitants des villes qu'ils produisent des armes pour ce combat. Et j'attends du paysan qu'il donne le pain pour les soldats et les travailleurs de ce combat.
Ça ne va pas très fort de Schweinfurt à Francfort. Ach, mein lieber Führer, c'est heil, c'est heil. Bientôt la croix gammée sera la croix dégommée. Ach, mein lieber Führer, c'est que heil, c'est heil.
Et c'était bien sûr Pierre Dac en 44, un an avant la chute du Troisième Reich, et ce dernier appel de Hitler à tous les Allemands, ce que l'on a entendu, leur demandant de se battre jusqu'au bout. Alors là, en 45, il fait appel vraiment à tout le monde. On l'a entendu, les paysans, oui, même les infirmes, et il y avait ce qu'on appelait le Volkssturm, je crois, c'est-à-dire des soldats, des enfants en uniforme qui qu'on trouvait en face des Russes à Berlin ou des vieillards. C'est vraiment, comment expliquer l'acharnement avec lequel les Allemands se sont battus? Vous évoquiez la peur des Russes tout à l'heure, Philippe Masson, mais ça ne suffit pas. C'était peut-être la propagande, tout simplement.
Non, la propagande n'aurait pas suffi. On a essayé des thèmes de propagande dans des tas de pays, ça ne marche qu'à la condition qu'il y ait vraiment une menace réelle et un sentiment national exacerbé. Alors, le leitmotiv à l'époque, c'est la défense des territoires de l'Est. Et c'est certain qu'il y a eu des atrocités sans nom qui ont été commises, mais même à Berlin. plus de 170 000 femmes ont été violées, ont subi des traitements dans les hôpitaux, etc.
Mais là, je reviens, Philippe-Masson, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Vous disiez que c'est sans commune mesure. Je rappelle quand même que les Soviétiques ont eu 20 millions de morts et que la présence allemande en URSS a été une abomination aussi. On peut comprendre son défoulement.
Mais
et beaucoup de civils, je ne parle même pas, parce que justement les films n'en parlent pas beaucoup.
Les déportations faites par les Russes eux-mêmes et les sacrifices extraordinaires de l'armée rouge. Ça, c'est vrai que c'est une armée qui a eu des pertes considérables.
Alors vous dites défendre l'Allemagne, et pourtant il y a quelque chose d'assez extraordinaire, et ça les Allemands ne devaient pas le savoir. Le 19 mars 1945, Hitler donne un ordre qui est tout simplement la politique de la terre brûlée. Il est question de détruire non seulement les moyens de communication, mais aussi les usines, je le cite, les centrales électriques, les réservoirs d'eau, tout ça en Allemagne, les magasins d'alimentation et de vêtements. Bref, c'est la terre brûlée, c'est absolument terrible cette décision de détruire tout devant l'avance des Alliés.
Et en fait, reprendre ce qu'ont fait les Russes en 41-42.
La terre brûlée.
La terre brûlée. Ils ont tout démoli, brûlé les villages au ras du sol, etc. Donc ça, c'est une méthode de guerre qu'on avait déjà vue en Russie en 1812.
Et ce à quoi, il faut le rappeler, s'opposait un de ses ministres, le ministre de l'armement, qui était aussi le grand architecte de Hitler, qui était Albert Speer, qui d'ailleurs a passé un certain temps dans le bunker de Hitler, et qui, le 18 mars, la veille de ce fameux décret, entend Hitler lui dire, Speer, je cite Speer, « Si la guerre est perdue, la nation doit périr. Inutile d'envisager pour elle des moyens de vie, même primitifs. De plus, les individus qui resteront, il parle des Allemands, Hitler, hein, les individus qui resteront une fois la guerre finie seront des êtres inférieurs car l'élite sera fait tuer. » C'est incroyable. Il y a quand même un mépris pour son peuple, en tout cas pour ceux qui subsistent de son peuple, qui est absolument effarant, Philippe-Masson.
Oui, ben c'est conforme à sa vision de l'histoire. Un peuple doit montrer qu'il est capable de combattre jusqu'à la mort s'il est digne, s'il veut vraiment subsister dans l'histoire.
Parce qu'on a le sentiment d'un suicide collectif, en quelque sorte. Devenu, si je meurs, il meurt avec moi.
Oui, mais c'est devenu quelque chose de pratiquement incompréhensible de nos jours. Mais on retrouve des paroles identiques chez Napoléon.
En tout cas, Hitler était donc enfermé dans son bunker lorsque le 16 avril 1945, les Russes lancent leur offensive sur Berlin avec 2,5 millions de soldats sous les ordres des maréchaux Yukov et Koniev, tandis que dans le bunker, on prépare le 56e anniversaire de Hitler qui doit être célébré le 20 avril 1945, le lendemain de cette allocution surréaliste du ministre de la Propagande Joseph Goebbels, le 19 avril 1945, alors que les Russes sont à quelques pâtés de maison de Berlin.
Au lieu du drapeau blanc de la soumission, nous hisserons le vieux drapeau à croix gammée. Nous remercions Dieu à jamais de nous avoir donné un vrai chef. Et ainsi nous montrerons à nos ennemis qu'ils peuvent nous blesser, mais pas nous tuer, nous torturer, mais pas nous décourager.
Et c'était Goebbels, le 19 avril 1945, essayant donc jusqu'au bout de galvaniser les Allemands. Et même Hitler, d'ailleurs, je crois qu'il l'encourageait en lui sortant des horoscopes, en lui disant, mais on est au plus profond du désespoir, mais ça va se retourner. D'ailleurs, je crois que quand le 12 avril, on a appris la mort de Roosevelt, alors là, on a festoyé, sablé le champagne dans le bunker. Mais il y a vraiment, il croyait même aux horoscopes à ce moment-là.
Oui, je finissais par essayer de se raccrocher. Mais son grand exemple, c'était d'ailleurs le portrait qu'il avait dans son bureau, c'était Frédéric le Grand. Car Frédéric le Grand avait frôlé une catastrophe comparable à celle qu'Hitler a connue dans le bunker. Et s'il n'y avait pas eu la mort de la tsarine Elisabeth, dont le fils était un fanatique de Pierre le Grand, qui a signé tout de suite la paix avec lui, et ça a permis à Frédéric le Grand de se ressaisir et finalement de vaincre ses adversaires et d'éviter l'effondrement de sa dynastie.
Mais alors c'est donc le 19, on a entendu Goebbels dire mais ayez confiance, alors encore une fois que les Allemands sont aux portes, les Russes sont aux portes de Berlin, et puis alors on fête, on célèbre, ça aussi c'est totalement surréaliste, le film rend bien cela, je crois, je l'ai pas vu, hein, je suis comme vous, mais j'en ai vu quelques extraits, on en a beaucoup parlé, rend bien compte de ce côté un peu surréaliste, on sable le champagne pour l'anniversaire de Hitler, le 20 juillet, en présence de toutes les autorités qui sont là, il y a ceux qui resteront jusqu'au bout, comme Goebbels auprès de Hitler, ceux qui partiront aussi ce jour-là, qui voient Hitler pour la dernière fois, Göring, Himmler, hein, et on lui dit, on dit à Hitler, mais il faut partir, il faut quitter Berlin, il peut encore le faire, et lui décide de rester. Pourquoi, Philippe Masson?
Bah, d'abord parce qu'il est décidé à mourir. Il sait très bien que la défense de Berlin, dès le 22, il cesse de donner des ordres, il dit bon, la guerre est perdue, c'est fini. Et il ne veut pas mourir ou continuer la lutte dans une maison de vacances. Berchtesgaden, c'est le centre du repos. Il veut rester à Berlin et se donner la mort à Berlin. Comme il n'est plus capable d'aller se faire tuer, parce qu'il l'aurait fait encore un an ou deux plus tôt, c'était quand même un ancien combattant extrêmement valeureux. Il ne le fait pas, il a choisi la mort la plus sûre, c'est le poison, le pistolet, on ne sait pas exactement. Quoi qu'il en soit, il a décidé de rester et de mourir à Berlin, dans les ruines de la chancellerie, ce qui était le centre de son pouvoir.
En tout cas, le 22 avril, on n'en est pas encore tout à fait là. Il continue de donner des ordres à des armées fantômes, hein, comme celle, par exemple, du général SS Felichsteiner, à laquelle Hitler demande de marcher sur Berlin. Et lorsque le 22 avril, vous le disiez à l'instant, Philippe Masson, lorsque le 22 avril, à la conférence quotidienne que tient Hitler dans son bunker avec son état-major, Hitler apprend que cette offensive n'a pas eu lieu. Il est fou de rage. C'est une des scènes les plus fortes du film La Chute.
C'était un ordre. L'offensive Steiner était un ordre. Tout le monde m'a menti, même les SS. Tous ces généraux sont des lâches, infâmes et infidèles. Ce sont des lâches, des traîtres, des incapables. Les généraux sont les déchets du peuple allemand. Ils n'ont pas d'honneur. J'aurais mieux fait de liquider tous les officiers comme l'a fait Staline.
Et c'était Bruno Ganz dans le rôle de Hitler dans le film La Chute, donc il sort aujourd'hui à Paris. Cette scène du film La Chute n'est pas de la fiction, hein, je crois, Philippe Masson. Elle a été racontée par tous les témoins qui se trouvaient dans le bunker le 22 avril 1945. Et là, on a l'impression d'un homme hystérique.
Vous savez, il y a plusieurs Hitler. Il y a un Hitler dominateur qui est au fond de la victoire, c'est celui de l'armistice de 1940. Et puis après, il y a un deuxième Hitler qui apparaît après Stalingrad. Ça, ça l'a énormément marqué. Et à partir de ce moment-là, d'après Jodl, qui était le chef d'état-major de l'OKW, il sait très bien que cette guerre, il ne peut pas la gagner. Et justement, on disait tout à l'heure, il est dans une impasse diplomatique et militaire. Et puis enfin, il y a l'attentat du 20 juillet. L'attentat du 20 juillet l'a énormément traumatisé. Oui. Parce qu'alors, à ce moment-là, il s'est aperçu qu'il y avait des ramifications dans tout le haut commandement. Et, comme le dit Guderian, qui était son chef d'état-major pour la dernière fois, il n'avait plus confiance dans personne. Mmh. Il voyait des traîtres partout, on lui mentait, il ne croyait plus ce qu'on lui disait, et il devenait de plus en plus difficile de discuter avec lui. Mmh. Donc c'est un homme. Et puis sa santé s'était considérablement dégradée.
Il ne bougeait plus, il y avait un bras qui était littéralement paralysé.
Il n'est pas le seul. Si vous prenez, par exemple, Churchill. Churchill a eu, c'est des gens qui sont soumis à une tension terrible, pourtant, Churchill finit par gagner la guerre, enfin, parmi des vainqueurs. Il a eu deux infarctus et deux pneumonies. Deux fois de suite, on a cru qu'il allait mourir. Et le président de la République des États-Unis meurt d'une crise cardiaque ou d'une hémorragie cérébrale 3 mois avant la fin de la guerre. Mmh. Staline, on ne sait pas trop. Enfin, maintes reprises, quand on parle d'établir une conférence, soit Yalta, soit Wolfgang, les diplomates soviétiques disent non, non, il faut que ce soit le plus près possible de Moscou, la santé de notre chef n'est pas toujours très brillante, etc.
Dans la scène que l'on a entendue, ça s'est produit donc le 22 avril 1945 dans le bunker, surtout pour la première fois, justement, Hitler affirme que la guerre est perdue, il le dit en public, hein, il pouvait le penser peut-être depuis un certain temps, et il songe, il le dit aussi, à se suicider. Et on dit beaucoup que c'est une des raisons des deux trahisons qui vont suivre presque immédiatement cette scène, parce qu'évidemment, elle a été rapportée à tous les généraux qui ne se trouvent pas dans le bunker, qui ne sont pas à Berlin, et notamment la trahison de Göring qui met Hitler, évidemment, foudrage. Qu'est-ce qui s'est passé? Göring, il faut le rappeler, était, selon un décret du 29 juin 1941, le successeur prévu de Hitler, s'il était dans l'incapacité d'agir.
Alors, justement, Göring estime à un moment donné qu'il a l'incapacité d'agir et décide d'assumer les fonctions de Reichsführer. Quant à Himmler, c'est Guderian qui l'avait poussé en disant, vous quand même, vous avez pas mal de relations, etc. Essayez de voir s'il n'y a pas une paix de compromis possible avec les Occidentaux. Et il est entré en contact avec le comte Folk Bernadotte, qu'on voit à plusieurs reprises...
Un diplomate suédois.
Un diplomate suédois qui, à plusieurs reprises, est intervenu en Israël ou ailleurs, qui a toujours essayé, finalement, d'arriver à un compromis. Alors là, apprenant ça, eh ben... Goebbels, Hitler, non seulement les prive de leur tout commandement, mais les condamne à mort, dans la capacité d'ailleurs de le faire. Et la grande surprise, c'est que son successeur, ce sera le grand amiral Dönitz, et finalement Kücler, commandant en chef du Sud, pour les forces armées.
Apprenant la trahison de Himmler, il va même aller plus loin, Hitler, parce que comme il n'a pas Himmler sous la main, puisque Himmler est parti du bunker et de Berlin depuis déjà plusieurs jours, il fait arrêter un général SS qui s'appelait Fögelein, qui était, je crois, un confident de Himmler, et il le fait exécuter dans le bunker. Il l'élimine dans le bunker. Or, il se trouve que Fögelein était quasiment le beau-frère de Hitler, puisqu'il s'était marié avec la sœur d'Eva Braun. Et malgré tout, Hitler le fait exécuter. Et malgré aussi les jérémiades d'Eva Braun qui dit non, épargnez-le. Il faut rappeler qu'Eva Braun aussi, parce que dans ce bunker, il y a un peu de tout, et notamment cette maîtresse de Hitler, que Hitler cache d'ailleurs, que personne ne connaît en Allemagne, et qu'il va décider d'épouser peu de temps avant, 24 heures avant de se suicider avec elle.
Bah d'abord, elle vient le rejoindre au bunker alors que rien n'y oblige. Elle aurait très bien pu rester en Allemagne, se cacher quelque part, vraiment. Et finalement, il décide, compte tenu de la fidélité qu'elle lui a manifestée, de l'épouser. Et ça la rend extrêmement heureuse.
C'est vraiment surréaliste, elle parce que là encore, il y a une fête. On est le 29 avril, la veille de leur suicide.
Elle distribue des bijoux au secrétaire, à des amis qui sont là. Rien que le fait de devenir Madame Hitler, et ben, en effet, c'est pour elle une grande joie.
Et alors, bon, dans l'ordre chronologique, là, ça se déroule heure par heure, il y a ce mariage en pleine nuit, je crois du 8 au 29, je sais plus très bien, du 28 au 29, et puis Hitler rédige son testament, alors là, il accable la juiverie internationale, comme d'habitude, au moment où on est en train, il faut le rappeler, et ça, le film ne le rappelle pas, on le lui reproche, le film La Chute, au moment où on est en train aussi de libérer les camps d'extermination et les camps de concentration, alors il accable les juifs, et il rédige son testament, il désigne Dönitz, l'amiral Dönitz, comme son successeur, comme président du Reich. Goebbels, qui refusera, puisqu'il va se suicider juste après Hitler, Goebbels comme chancelier. Et il se suicide. On dit beaucoup que ce suicide et le fait qu'il ait demandé à être brûlé, incinéré, Philippe Masson, est lié au fait qu'il apprend également, toujours le 29, que la veille, Mussolini, son complice, a été arrêté, exécuté par les partisans, et que son corps, ainsi que celui de sa maîtresse, ont été trimballés dans les rues de Milan. Et on dit que c'est pour ça que Hitler ne voulait pas qu'on trouve son corps.
C'est une supposition. Il n'y a aucune preuve que ça l'ait vraiment... Mais il avait toujours dit, et ça date du 16 novembre 1939, « Si je ne remporte pas la victoire, je mourrai. » Mais il n'y aura pas de nouveau 11 novembre. Il n'y aura pas de crise intérieure et d'intervention extérieure. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ça qui est étonnant, c'est que le peuple allemand était un peu a appris sa mort. D'ailleurs, on a fait croire qu'il avait été...
On y reviendra. Oui. Mais ce suicide, d'abord, c'est un peu mystérieux, parce qu'ils se mettent à l'écart, c'est dans la nuit du 29 au 30, c'est le 30, je crois, à 3 heures du matin. D'ailleurs, on ne sait plus dans le bunker quand est-ce qu'il fait jour et nuit, puisqu'on est sous terre depuis déjà 3 mois, pour ce qui concerne Hitler. On ne sait pas si c'est une capsule de cyanure ou si c'est une balle dans la tête.
Personne n'a entendu, finalement, semble-t-il, le coup de pistolet, malgré des tas d'interrogatoires. Tous ceux qui étaient présents, Ligne, sa secrétaire, ont été interrogés là-dessus, n'ont pu finir. Est-ce qu'il a essayé d'écraser une ampoule de cyanure tout en se tirant une balle dans la tête? Comment Eva Braun s'est-elle uniquement empoisonnée ou elle s'est tirée, elle aussi, une balle dans la tête? On n'en sait pratiquement rien. D'ailleurs, je crois que le film ne montre pas leur mort dans leur appartement privé.
Mais, en revanche, il y a leur incinération. On sort les deux corps à l'extérieur du bunker, dans une espèce de terrain vague, et on les brûle dans un trou d'obus. Et ce n'est que le lendemain, le 1er mai à 22h, que les Allemands apprenaient la mort de Hitler, annoncée à la radio par son successeur, l'amiral Dönitz.
Der Großadmiral und Nachfolger des Führers spricht zum deutschen Volk.
Deutsche Männer und Frauen.
Allemands et Allemandes.
Soldaten der deutschen Wehrmacht.
Soldats de la Wehrmacht.
Der Führer ist gefallen.
Le Führer est mort. C'est un des plus grands héros de l'histoire allemande qui nous a quittés. Nous nous inclinons devant lui, plein de respect et de tristesse.
Et c'était donc Dönitz annonçant le 1er mai 45 aux Allemands la mort de celui qu'il appelle un héros, avec un petit H et de gros guillemets, mais qui emploie le mot Gefallen, vous le disiez, il est tombé comme un soldat, il dit pas il est mort, et il dit encore moins qu'il s'est suicidé.
Exactement, il laisse entendre qu'il est mort au combat.
Et on a, alors, le fait que le corps ait été brûlé presque intégralement et donc qu'on ne l'a pas retrouvé a laissé ensuite des tas d'hypothèses. On s'est demandé si Hitler était vraiment mort. Qu'est-ce qui s'est passé, Philippe Masson? Est-ce qu'on a découvert des restes de Hitler?
Eh bien, disons, une fois Berlin, les combats ont pratiquement cessé, les Russes se sont empressés de visiter le bunker, d'essayer de trouver des restes de Hitler. Ils ont fouillé l'emplacement. Alors ça, on savait approximativement là où il avait été carbonisé. Ils ont mis ça dans des caisses, ça a été promené dans différents endroits jusqu'à Magdebourg. Les seuls restes, peut-être sûrs, mais c'est pas certain. C'est un bridge d'Eva Braun et un morceau de la mâchoire, mais très réduit, de Hitler. Et ça, c'est pas absolument certain. Mais ils ont fait courir des tas de faux bruits. Ils seraient partis au Japon, en Amérique latine.
En tout cas, la capitulation allemande n'interviendra donc une semaine après la mort de Hitler. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Comme nous aurons l'occasion de reparler aussi de la libération des camps qui se sont produits également il y a 60 ans. Mais que dont parle peu le film de Oliver Spiegel qui sort aujourd'hui. Mais comme ni vous ni moi ne l'avons encore vu et que les auditeurs sont assez grands pour se faire une idée à partir de l'histoire et des archives d'époque que nous avons entendues avec vous, je vous propose, Philippe Masson, de terminer l'émission avec une dernière archive de 1945, la découverte par un journaliste français de la radio du bunker de Hitler en juillet 1945.
Nous sommes devant cette fosse gardée par deux sentinelles russes. Elle est en effet peu profonde et longue de 2 mètres au plus. Au fond, une capote de SS ensanglantée. À côté de moi, 3 bidons d'essence rouillés et percés de balles. Ce sont les bidons qui ont servi à l'incinération. J'en prends un et je le touche du doigt pour vous. C'est dans cette fosse que Hitler, ce monstre,